Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers amis auditeurs, méditons ensemble sur les versets 47, 48 et 49 de la Sainte Sourate Younes.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
À chaque communauté, un messager. Puis, quand vient leur messager, tout se décide entre eux à la balance. On ne leur manquera cependant pas. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Dis, je ne suis maître pour moi, ni de mal ni de bien, que celui que Dieu veut. À chaque communauté, un terme.
quand leur terme arrive, ils ne peuvent alors ni retarder d'une heure, ni avancer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en France, jeudi soir, 24 mars de 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, au cours d'une rencontre à Damas avec le président syrien, a réitéré le soutien de l'Iran au gouvernement et au peuple syrien. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une sévère mise en garde au régime israélien. Moscou accuse les États-Unis d'entraver les difficiles négociations russo-ukrainiennes. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a rencontré à Damas le président syrien Bachar al-Assad, avec qui il s'est entretenu de la coopération bilatérale et des développements régionaux et internationaux. Lors de cette rencontre, Hossein Amir Abdollahian, tout en félicitant les succès réalisés par la Syrie dans les arènes politiques et sur le terrain de la lutte contre ses ennemis, a souligné la poursuite du soutien de la République islamique d'Iran au gouvernement et au peuple syrien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un nouveau chapitre des relations s'ouvre dans le domaine de la coopération économique entre Damas et Téhéran. Le développement de la coopération économique entre l'Iran et la Syrie est sérieusement à l'ordre du jour des relations bilatérales et la facilitation du transport et du transit entre les deux pays est envisagée. Le président syrien a pour sa part qualifié les allégations de bonne volonté avancées par des responsables du gouvernement américain de sans fondement avant de qualifier la position de la République islamique d'Iran dans les pourparlers de Vienne de sage et de correct, soulignant que ce qui est important pour la Syrie, ce sont les approches de l'Iran. Bachar al-Assad a réitéré le soutien de la Syrie à l'Iran dans les pourparlers de Vienne. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a averti les ennemis de l'Iran contre la poursuite de leur hostilité contre l'Iran. Cessez le mal, sans quoi les rares ouvertures qui vous restent dans le monde seront bientôt fermées, a déclaré le général de division Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Sachez que pour honorer nos martyrs, nous ne nous contentons pas de simples funérailles et que nous passons également à l'acte pour les venger, et ce alors que nous sommes entrés dans un nouveau siècle qui est celui de la décadence et de puissance diabolique de nos ennemis, a ajouté le général Hossein Salami. Dans une autre partie de ses propos, le général Salami a précisé que pour la nation iranienne, la résistance aux pressions et aux menaces obéit à une logique qui ne se limite pas à une courte période de confrontation avec les ennemis. La nation iranienne a fait preuve de son esprit de résistance pendant les 8 années de défense sacrée, pendant les longues années de sanctions et de pressions économiques face aux agressions terroristes et à la campagne médiatique et culturelle de ses ennemis, a ajouté le commandant en chef du CGRI. Le général Salami a évoqué ensuite les récentes déclarations des responsables de la Maison-Blanche selon lesquelles le régime des sanctions imposées par Washington à la République islamique d'Iran aurait renforcé davantage les Iraniens et a ajouté « Le processus du déclin de la superpuissance américaine et de la civilisation occidentale a commencé il y a des années et s'est accéléré ces derniers temps. » Le commandant-chef du CGRI a affirmé que la logique de la révolution islamique est supérieure à celle de la civilisation occidentale et qu'elle est basée sur la supériorité de l'islam, de la liberté des esprits et la fin de l'ignorance. Le Hezbollah libanais a salué l'opération héroïque menée par le martyr Mohamed Aboual Aghian Abir de Shiba, tuant et blessant un nombre de colons sionistes. Cette opération incarne la spiritualité du djihad et de la résistance qui est ancrée chez le peuple palestinien et qui rejette l'occupation, a affirmé le Hezbollah dans un communiqué. Le Hezbollah félicite le peuple et les factions de la résistance pour cette opération. La résistance sous toutes ses formes, tout au long de la Palestine, de la mer jusqu'à la rivière, est l'unique voie pour la victoire et la libération complète, a conclu dans son communiqué le Hezbollah libanais. Moscou accuse les États-Unis d'entraver les difficiles négociations russo-ukrainiennes. Moscou a accusé les États-Unis d'entraver les difficiles négociations russo-ukrainiennes, soulignant que le but de Washington était de dominer l'ordre mondial, y compris par le biais des sanctions. Les négociations sont difficiles, la partie ukrainienne change constamment sa position, il est difficile de se débarrasser de l'impression que nos collègues américains les tiennent par la main, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans un discours devant les étudiants. Dans la foulée, il est prévenu que l'envoi de casques bleus en Ukraine pourrait conduire à une confrontation directe entre la Russie et l'alliance militaire de l'OTAN. Les Américains partent tout simplement du principe qu'il n'est pas profitable pour eux que ce processus se termine rapidement, a-t-il ajouté encore. Beaucoup aimeraient faire en sorte que les négociations soient une impasse, a encore affirmé le chef de la diplomatie russe, citant la Pologne, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine face à Moscou. Et de poursuivre, les pays occidentaux veulent jouer un rôle de médiateur. Nous ne sommes pas contre, mais nous avons des lignes rouges. Il a reproché aux Occidentaux d'approuver l'Ukraine en armes par leur livraison destinée, selon lui, à garder le plus longtemps possible Moscou et Kiev en situation de combat. Sergueï Lavrov s'est dit frappé aussi par l'ampleur des sanctions occidentales adoptées à l'encontre de Moscou pour son opération militaire en Ukraine, commencée le 24 février. Et il a souligné qu'elles étaient destinées à supprimer la Russie en tant qu'obstacle à un monde unipolaire. Tout ceci n'est pas à propos de l'Ukraine, mais à propos de l'ordre mondial que les États-Unis veulent dominer, a-t-il conclu. Les dirigeants africains sont en train de mener des consultations avec leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue d'avoir les moyens de contenir le renchérissement des prix des denrées consécutifs à la guerre en Ukraine, a déclaré le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine. Nous avons déjà commencé à consulter tous nos partenaires, que ce soit nos partenaires multilatéraux sur le plan multilatéral, mais également les partenaires bilatéraux. C'est un appel au monde entier et à l'ensemble des partenaires bilatéraux qui peuvent travailler avec les pays d'Afrique et avec le monde entier dans cette phase critique, a-t-il notamment dit. Il a animé un point de presse donné conjointement avec le président du groupe de la Banque mondiale en visite au Sénégal dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau. Il y a une inflation réelle qui touche les pays. Il faut un mécanisme de soutien lorsque la crise est aussi grave, a déploré le président sénégalais qui reconnaît que son pays, à l'instar des autres États d'Afrique, est un consommateur de produits importés, notamment le blé et le fer. Face à la flambée des prix de ces produits, il est urgent d'arrêter le conflit entre la Russie et l'Ukraine afin que les conséquences soient maîtrisées sur le continent et le monde entier, a plaidé Macky Sall. Pour sa part, le président du groupe de la Banque mondiale a abondé dans le même temps en déplorant les désastres engendrés par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, plus précisément du Sénégal, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique qui porte sur la rencontre à Damas du chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, avec le président syrien Bachar al-Assad. L'Iran est prêt à parvenir à un accord si la partie américaine se comporte de manière réaliste, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères à Damas lors d'une rencontre avec le président syrien, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré dès mercredi matin le président syrien Bachar al-Assad pour discuter de la coopération bilatérale et des développements régionaux internationaux. Lors de cette rencontre, Hossein Amir Abdollahian, tout en félicitant les succès réalisés par la Syrie dans les arènes politiques et sur le terrain de la lutte contre ses ennemis, a souligné la poursuite du soutien de la République islamique d'Iran au gouvernement et au peuple syrien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un nouveau chapitre des relations s'ouvre dans le domaine de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le développement de la coopération économique entre l'Iran et la Syrie est sérieusement à l'ordre du jour des relations bilatérales et la facilitation du transport et du transit entre les deux pays est envisagée. À cet égard, les interactions et les échanges entre les deux pays sont également importants. Se félicitant du processus de normalisation des relations entre les pays de la région et la Syrie, le chef de la diplomatie iranienne a noté les points de vue communs des deux parties sur de nombreuses questions régionales internationales et a souligné que dans les tensions régionales, la République islamique d'Iran s'oppose à toute guerre et appelle à une solution politique et pacifique. Pour Téhéran, tourner le chapitre des différends passe par le dialogue et des moyens politiques et pacifiques. À cet égard, l'Iran appelle à la résolution de la crise yéménite par le biais de pourparlers inter-yéménites et estime que le changement dans le comportement de certains pays de la région pourrait aider à trouver une solution pour les questions régionales, très particulièrement le Yémen. Concernant le développement en Ukraine, il a souligné que nous sommes contre la guerre et contre les sanctions. La solution en Ukraine est politique, a insisté le chef de la diplomatie iranienne. S'agissant des pourparlers de Vienne, Amir Abdullahian a déclaré que nous sommes parvenus à un accord dans les négociations. Bien que les Américains affirment qu'ils sont intéressés à résoudre les problèmes et à parvenir à un accord, on s'attend à ce qu'ils fassent preuve de bonne volonté dans la pratique, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Lors de cette rencontre, le président syrien Bachar al-Assad, évoquant les développements rapides dans la région, a déclaré qu'après la défaite américaine en Afghanistan, et en particulier après les développements en Ukraine, il est devenu clair que les États-Unis et l'OTAN ne pouvaient rien faire pour le monde. Les pays de la région recherchent donc de nouveaux alignements pour remplacer le soutien américain. Déplorant également le double standard de certains pays, il a déclaré que ces pays sont silencieux face aux attaques du régime sioniste contre la Syrie et ne prennent pas position. Le président syrien a qualifié les allégations de bonne volonté avancées par des responsables du gouvernement américain de sans fondement avant de qualifier la position de la République islamique d'Iran dans les pourparlers de Vienne de sage et de correct, soulignant que ce qui est important pour la Syrie, ce sont les approches de l'Iran. Il a réitéré le soutien de la Syrie à l'Iran dans le pourparlers de Vienne. Bachar al-Assad, s'attardant sur la visite d'un groupe d'érudits sunnites iraniens en Syrie, a déclaré que ce déplacement avait une signification importante. Il a demandé à Amir Abdullahian de transmettre les salutations du président, du gouvernement et du peuple syrien au leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, et au président iranien Ebrahim Raisi. Les développements en Palestine et certaines autres questions bilatérales, régionales et internationales ont également été discutées au cours de cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, le débat. La résistance yéménite a mis en garde contre la poursuite de l'agression de la coalition d'agression saoudienne et émiratie contre le Yémen. La résistance yéménite qui a lancé également une mise en garde à la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite contre la poursuite du siège du peuple yéménite. Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Sari, a en fait lancé cette mise en garde en annonçant les détails d'une opération militaire, au cours de laquelle des positions vitales de l'Arabie saoudite avaient été visées une nouvelle fois. Le général Sari a déclaré lors d'une conférence de presse que les forces armées yéménites avaient lancé une opération militaire à grande échelle en réponse aux attaques répétées de la coalition saoudo-émiratie au siège brutal du peuple yéménite. Cette riposte de la résistance yéménite a eu également son effet sur les marchés mondiaux du pétrole. Il y a eu, suite à cette opération militaire de la résistance yéménite contre, si vous voulez, des positions vitales de l'Arabie saoudite, il y a eu une hausse des prix sur les marchés mondiaux du pétrole. Les prix qui s'étaient envolés déjà de suite à cette opération militaire de la Russie en Ukraine. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Zerostin, bonjour à tous vos invités et à tous vos auditeurs et à votre invité, M. Vitawa.
Vous l'avez dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. Il s'agit de M. Habib Tava. M. Tava, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'accueillir, de me permettre de donner mes opinions à travers votre chaîne.
Eh bien, merci infiniment. Merci à vous. Alors, quelle est votre opinion, puisque vous dites en fait là, vous parlez en fait de l'opinion à exprimer. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe actuellement entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, et sur cette récente opération militaire des forces armées yéménites contre l'Arabie Saoudite, qui a eu, comme je viens de le dire tout à l'heure, son effet sur les marchés mondiaux du pétrole également, M. Tava?
Oui, mais mes opinions, c'est aussi basé sur des analyses, et les analyses disent que la situation du marché a pris feu, comme vous l'avez indiqué au départ, avec la campagne que la Russie mène en Ukraine, qui a eu des effets non pas seulement sur le marché du pétrole, mais aussi sur le marché du blé, plusieurs marchés simultanément, sur les monnaies aussi, puisqu'il y a eu des fonds qui ont été bloqués ici et là. Et donc il est évident que l'intervention yéménite ajoute encore plus et met les États-Unis dans une situation paradoxalement contradictoire. Les États-Unis, en principe, sont les alliés de l'Arabie Saoudite et des Émirats contre le Yémen. Néanmoins, dans les derniers votes qui ont eu lieu aux Nations Unies, dans l'Assemblée Générale, l'Arabie Saoudite et les Émirats se sont abstenus de condamner la Russie. De la sorte, ils se sont mis quelque part en marge de la politique américaine. Néanmoins, les Américains ont besoin de ces gens-là, puisqu'ils s'attaquent en particulier au Yémen et évidemment à la Russie. Et aujourd'hui, la politique américaine se trouve face à une impasse sur le contrôle des marchés mondiaux et sur le contrôle de la situation politique à travers le monde. Parce que ces paradoxes ont été accentués du fait que les Yéménites ont tapé fort et là où il faut taper, c'est-à-dire ils ont frappé des raffineries ou bien des réservoirs selon le cas de pétrole, que ce soit à Jizan bien sûr, mais bien plus au nord, dans la capitale saoudienne, et aussi à... Donc, Janbo est un point par qui conduisait rouge plutôt que de faire le péninsule arabique. Le marché du pétrole, il dit, s'est envolé. Est-ce les États-Unis? Ce n'est pas évident parce que une sorte de pénurie qui s'organise. Si en parallèle avec une troisième négociation qui se passe entre l'Iran et les signataires de l'accord, là aussi, les Allemands sont dans une position ambiguë. Faut-il remettre sur le marché de façon ouverte ou non? Ils se trouvent finalement bloqués dans une impasse. Et la politique, en accentuant cette impasse, conduira, d'après moi, avec cette nouvelle donne qui est apparue, à une redistribution des cartes, non seulement dans la région, mais dans le monde.
Merci beaucoup, M. Dortiguier. Vous avez en fait entendu l'analyse de l'opinion de M. Tavar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se sont abstenus en fait de condamner la Russie lors de ce vote à l'Assemblée générale de l'ONU, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont considérés d'ailleurs comme les alliés les plus proches des États-Unis. En jugé par les informations, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont en fait refusé de se soumettre aux demandes des autorités américaines d'augmenter leur production, si vous voulez, du pétrole de suite, si vous voulez, à cette opération militaire de la Russie contre l'Ukraine, cette hausse des cours du pétrole. Alors tout cela indique, M. Dortigué, l'importance de cette riposte de la résistance yéménite qui a visé une fois de plus les profondeurs stratégiques de l'Arabie saoudite, M. Dortigué.
En effet, M. Narosti, je suis et je nous remercions tous, enfin, M. Alitawa, de non seulement des précisions, mais disons de la formulation du fond, à savoir que les puissances pétrolières arabes, avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, etc., ne songent qu'à, disons, qu'à une vue matérialiste, si je puis dire, de l'affaire, et se sont mis un peu en marge des États-Unis en suivant la politique, en étant influencés par la politique de puissance de la Russie d'aujourd'hui. Ceci est un effet, un fait, on ne peut pas le nier. Et l'action patriotique des Yéménites, évidemment, prend un sens, à mon avis, différent de ce qu'elle a été jusqu'à présent. Il ne s'agit plus de lutter contre une agression, il ne s'agit plus de lutter contre une politique d'annexion, contre une politique, disons, menée traditionnellement par l'Arabie saoudite depuis des générations. J'ai l'habitude de parler souvent de ce qui est arrivé à l'époque de Nasser, c'est la même chose qui se produit avec des formes différentes. Mais nous sommes rentrés dans un marché international, et là, la puissance russe, qui est la suite de l'Union soviétique, il ne faut pas se cacher le visage pour le dire, évidemment, amène également à des changements d'attitude de pays qui n'ont pas réellement de politique à eux. Je parle des États comme l'Arabie saoudite et autres, et ceux qui la suivent. Ils ont en réalité ils s'offrent au plus offrant. Et ce qui semble être parmi les acteurs invisibles de cette affaire-là, invisible mais réel, bien sûr, le propre, disons, l'enjeu, c'est de créer une situation de crise internationale. Ça, c'est, je crois qu'il y a une entente, disons, entre les adversaires eux-mêmes. C'est-à-dire que, disons que, bon, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, nous allons sortir de cette crise ou rentrer dans, ou, disons, je ne dis pas rentrer dans la crise non plus, mais nous allons nous installer dans cette crise avec un changement complet d'habitude, un changement de vie, une diminution de notre niveau de vie. Et c'est cela qu'on appelle peut-être le nouvel ordre mondial. Je crois qu'il y a un repartage des cartes, il y a une sorte de nouveau Yalta, si je puis dire. Et de ce point de vue, la politique russe et la politique américaine apparaissent comme des politiques, je le répète, de puissance, des politiques de force. L'idéologie a de moins en moins d'importance. Les prétextes moraux sont des prétextes, disons, bien sûr, sont des prétextes, c'est-à-dire ce sont des paravents derrière lesquels on veut aboutir, on ne peut qu'aboutir à un nouvel équilibre. Cet équilibre sera intenable, à mon avis. Il sera simplement de former de soubresauts. Et je crains que, disons, les victimes même soient les États arabes producteurs de pétrole. Je ne parle pas de leur richesse, je parle du destin des peuples. C'est très mauvais d'être ainsi ballotté entre des puissances dont on ne contrôle pas finalement l'appétit. Je crois que c'est ça qui est le drame que nous vivons. Et ce drame, bien sûr, sera plus ou moins caché à l'opinion par le fait que chaque pays connaîtra des difficultés de vie qui nous renverraient, disons, à des générations antérieures, et même que les générations antérieures, malgré la guerre, n'ont pas connu. C'est-à-dire des difficultés constantes de vie, d'abandon de certaines richesses de consommation, voyez-vous. Et je crois que ceci n'aboutira pas à une stabilisation, mais nous allons rentrer dans une période de tempête, de troubles, vous voyez. Et je crois qu'il sera très très difficile d'assigner une place à chacun des acteurs.
Monsieur Tava, vous l'avez en fait dit tout à l'heure, cette abstention, si vous voulez, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis lors en fait de ce vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Et je viens de l'évoquer tout à l'heure, comme quoi, à en juger par les informations, les princes héritiers saoudiens et émiratis, avaient refusé les appels de Joe Biden, qui voulait en fait leur demander d'augmenter le niveau de leur production pétrolière. La position, si vous voulez, émiratie et saoudienne s'explique, en juillet toujours par les informations, entre autres par ce mécontentement de Riyad et d'Abu Dhabi, de voir les États-Unis ne pas en fait les soutenir suffisamment dans cette guerre lancée contre le Yémen. Et M. Tava, cela intervient à un moment où, plusieurs années après cette guerre lancée contre, le Yémen, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite se sentent vulnérables face à la résistance yéménite et expriment leur mécontentement, si vous voulez, à l'endroit des États-Unis, M. Tava.
La complication de la situation que M. Verdier a très bien présentée, avec le fait que nous rentrons quelque part dans le noir, parce qu'on ne sait pas si la Russie va réussir à imposer ses positions face aux États-Unis, les États-Unis cherchant à faire en Ukraine un nouvel Afghanistan contre la Russie, c'est clair. Ce qui se passe là-bas en Ukraine, c'est une volonté d'enchaîner les Russes dans une guerre d'usure. Mais ça, c'est un point qui fait qu'on ne sait pas qui va l'emporter. Est-ce que les Russes vont s'imposer ou non? On ne sait pas. Mais ceci crée une instabilité dans la région et localement, que ce soit le Mohammed ibn Zayed ou Mohammed ibn Salman, c'est-à-dire le souverain des Émirats ou bien le souverain d'Arabie, le souverain réel d'Arabie Saoudite, se sentent fragilisés par la position de Biden. Parce que Biden, jusqu'à maintenant, n'a pas voulu recevoir Mohammed ibn Salman, le MBS, comme on dit, le véritable souverain, finalement, d'Arabie Saoudite. Et celui-ci se sent menacé, parce que les Américains utilisent comme un chantage l'assassinat qui a eu lieu à Istanbul, il me semble, du journaliste Khashoggi. Donc, il se sent piégé, et la raison pour laquelle pratique cette fuite en avant et s'éloigner des États-Unis n'est pas tellement pour des raisons idéologiques, c'est parce qu'il a peur. Et pour compenser cette situation, nous savons que Xi Jinping, le président chinois, envisage de faire une visite en Arabie Saoudite. Et cette redistribution des cartes est liée à des intérêts finalement personnels de ces hommes qui, finalement, ayant été longtemps les hommes des États-Unis, se trouvent un peu coincé par une forme de chantage que font jouer les États-Unis contre eux. Il ne faut pas oublier que Mohammed bin Salman est le responsable de l'entrée en guerre contre le Yémen, quand il était ministre de la Défense. Il est donc prisonnier d'une situation où, quoi qu'il fasse, il doit vaincre le Yémen. Parce qu'on l'attend sinon, on l'attend, tous ses ennemis à l'intérieur de l'Arabie Saoudite l'attendent au tournant. Donc la situation est extrêmement complexe là aussi. Et les Yéménites ont profité brillamment de cette situation pour faire valoir leur carte en disant « Vous ne pouvez pas jouer sur le prix du pétrole si vous ne tenez pas compte de nous. » C'est-à-dire finalement, si vous ne négociez pas avec nous et si vous ne nous rendez pas la main. Et de ce point de vue, les Yéménites ont joué très juste. Et il en est pareil, il en est de même pour l'Iran dans ces négociations de Vienne, qui aussi joue le chaud et le froid, parce qu'enfin, à Vienne, les négociations sont très simples tant qu'à faire. Les cinq puissances ont signé un accord avec Téhéran, il suffit de les respecter. Et les États-Unis sont en train de couper les cheveux en quatre en disant oui, mais, non, mais. Si les États-Unis voulaient vraiment reprendre leur relation avec l'Iran, ils auraient signé de nouveau là où ils remettent leur signature là où elle était. Voilà.
Monsieur Dorvier, Monsieur Tava vient de
Je remercie Monsieur Dorvier pour ses interventions.
Je vous en prie. Monsieur Dorvier, Monsieur Tava vient de soulever en fait des points, à mon avis, très importants, comme quoi en fait les Yéménites ont joué très juste. Et il voulait en fait véhiculer ce message aux autres parties que vous ne pouvez pas en fait négocier, de faire en fait des transactions pétrolières sans tenir compte de notre position de non-droit. Et cela intervient à un moment où, comme l'a dit en fait M. Tava, le président chinois est attendu en Arabie saoudite. Et il est désormais question de vouloir en fait mettre fin à cette hégémonie du pétrodollar pour aller vers le pétro-yuan également, parce que en fait l'Arabie saoudite et la Chine veulent négocier, si vous voulez, de se lancer dans des négociations pour permettre, si vous voulez, à l'Arabie saoudite de vendre une partie de son pétrole avec la monnaie chinoise et, si vous voulez, yuan. Et dans ce contexte, c'est la résistance yéménite. C'est le Yémen qui cherche à s'imposer comme un facteur de poids, M. Dortiguier, n'est-ce pas?
Un facteur incontournable, oui. Oui, tout à fait incontournable. De ce point de vue, je m'excuse de vous couper, pardon, M. Nerostin, il s'agit là d'une victoire politique du Yémen. Ceci était, à mon avis, disons, évident. Une victoire, bien sûr, obtenue au prix de sacrifices et de misères terribles. Effrayante, dont on a très peu idée en Occident ici. En France, il y a très peu d'informations sur le Yémen. Mais quand même, politiquement, le Yémen s'est imposé. Je dirais, c'est là un échec, naturellement, de la politique à courte vue de l'Arabie saoudite, politique, je dirais, matérialiste. Et il est vrai que la conséquence pour l'Iran, par exemple, est importante, parce que nous avions remarqué que la politique de M. Biden n'avait pas la même agressivité que celle de M. Trump et d'autres, et qu'il avait, disons, une vue plus, je ne dis pas réaliste, mais plus proche des intérêts américains. Voyez-vous, les intérêts américains, pour le dire très simplement, sont des intérêts, on est expansionniste. Oui et non, parce que vu la crise actuelle, cette crise mondiale, ont tendance, à mon avis, à pratiquer l'isolationnisme, c'est-à-dire pour la politique, par exemple, pétrolière, à se tourner davantage vers l'Amérique du Sud. Voyez-vous, je ne dis pas qu'ils lâcheront le Proche-Orient, mais qu'ils se préparent, à mon sens, à une lutte très longue. Je n'ose pas dire guerre, c'est mon sens intérieur, je ne veux pas l'exposer. Ils se préparent à une lutte très très longue, une lutte de rivalité avec, je ne dis pas avec la Russie, parce que s'il n'y a pas d'autre mot, et qui débouchera bien sûr sur une catastrophe, mais ceci n'est pas encore, disons, ceci on peut le penser, mais on n'en a pas encore les éléments pour l'affirmer. Je crois que, disons, l'arrogance jusqu'à présent des États autour de l'Arabie saoudite devra cesser. Les Américains, comme toute hors de puissance, ils ont compris cela. Je crois que la politique de M. Biden, quand même, est assez différente, disons, de celle suivie par ses prédécesseurs. Il faut en tenir compte, non pas pour le présent, mais pour l'avenir. Mais en tout cas, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, je crois que nous assistons, bien sûr, à une affirmation politique du Yémen, et cette victoire politique n'est pas encore une victoire militaire, mais c'est quand même déjà, ce sont les prémices de cette victoire-là. Je dirais sur son agresseur.
Et c'est le fruit de la résistance du peuple yéménite, M. Dortiguier, n'est-ce pas?
C'est exact.
La résistance qui dure quand même plusieurs années.
Bien sûr, qui vit depuis plusieurs années. Vous savez, je répète, souvent parfois les mêmes choses, parce que je les ai connues dans ma jeunesse, mais je me rappelle très bien de cette lutte au Yémen, à l'époque de Nasser, par exemple, Et je savais qu'il y avait déjà à l'époque, nous savions tous qu'il y avait cette ambition de l'Arabie Saoudite qui a été, qui a excité, disons, à la guerre civile. Eh bien, je crois que là, sur une si longue période, l'Arabie Saoudite a perdu. Elle a perdu, c'était un crime d'ailleurs contre ce qu'on appelait à l'époque la nation arabe au sens large du terme. Et je pense que la crise actuelle, la crise économique, la crise pétrolière, abaissera l'arrogance de certaines personnes en Arabie Saoudite, en tout cas le temps de régler les affaires par des assassinats, comme cela s'est produit, est passé. Je crois que ça, c'est le fruit de la résistance, du sacrifice des Yéménites.
Merci infiniment, M. Pierre Dorfiguier, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Habib Tava, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Le groupe terroriste takfiriste Hayat Tahrir al-Sham combat ses opposants sur les réseaux sociaux. Le Hayat Tahrir al-Sham a créé un groupe électronique dont la mission est de traquer et de fermer les comptes de médias sociaux partageant des publications à son encontre. Après des affrontements armés sur le terrain ces deux dernières années, le combat entre le Hayat Tahrir al-Sham dans la province syrienne d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, et ses opposants radicaux s'est désormais déplacé sur les réseaux sociaux. Au cours des deux dernières années, le Hayat Tahrir al-Sham a resserré son emprise sécuritaire et démantelé plusieurs groupes terroristes rivaux à Idlib, notamment Hurra Saldin, organisation des gardiens de la religion affiliée à Al-Qaïda, ainsi que Jund al-Sham et Jund Allah. Le Hayat Tahrir al-Sham a également arrêté des dizaines de membres et de dirigeants de ces groupes, ainsi que plusieurs autres terroristes dissidents qui ont rejoint des groupes rivaux. Ces répercussions sécuritaires n'ont cependant pas complètement mis fin à l'influence des groupes terroristes takfiristes. Aujourd'hui, plusieurs vestiges de ces organisations ont déplacé leur combat vers Telegram, le site de réseautage social préféré des terroristes takfiristes. Le 23 février, la soi-disant armée du djihad électronique du Hayat Tahrir al-Sham a annoncé la fermeture de plusieurs chaînes Telegram dirigées par des terroristes takfiristes rivaux. Le Hayat Tahrir al-Sham a déclaré sur Telegram « Nos efforts se poursuivent et nous continuerons notre travail jusqu'à la fermeture de la dernière chaîne de tous les extrémistes et criminels. » Parmi les personnalités dont les chaînes personnelles de Telegram ont été fermées figure Abu Abdel Ashta, un terroriste syrien de la ville d'Alep, qui était un dirigeant éminent du Hayat Tahrir al-Sham, avant de faire défection en 2019. Il a été arrêté et détenu dans les prisons de Hayat Tahrir al-Sham en raison de son comportement public et ses remarques sur la corruption et les défauts du Hayat Tahrir al-Sham et de son chef, Abu Muhammad al-Golani. Thank you. Depuis sa sortie de prison début 2020, Abu Abdel Ashta s'est tourné vers Telegram pour attaquer le Hayat Tahrir al-Sham. En février de la même année, il a créé un bataillon armé surnommé le Comité de coordination du djihad, qui a ensuite rejoint une alliance militaire qui comprenait plusieurs groupes terroristes takfiristes, notamment Hurra Saldin. La mise en place de la salle des opérations a déclenché une vaste campagne sécuritaire et militaire du Hayat Tahrir al-Sham en 2020, qui a fini par démanteler l'Alliance et réprimer ses membres, notamment Hurra Saldin et le Comité de coordination du djihad. Talha al-Masir, un takfiriste égyptien également connu sous le nom d'Abu Shuaib al-Masri, a également vu sa chaîne Telegram fermée. Il a été juriste au sein du Hayat Tahrir al-Sham avant d'être expulsé de ce groupe en 2019, puis s'est rapproché de Hurra Saldin et d'autres groupes rivaux du Hayat Tahrir al-Sham à Idlib. Les terroristes radicaux dont les comptes ont été fermés ont créé de nouvelles chaînes sur Telegram, dont Abu Abdallah al-Shami, le chef du front Ansar ad-Din, ainsi qu'Abu al-Ala al-Sham et Abu Yahya al-Shami, dont les noms étaient entre autres non annoncés. Dans une déclaration de Telegram du 23 février, Abu Yahya al-Shami a déclaré: la soi-disant armée du djihad électronique se vante de supprimer les chaînes de certains djihadistes. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui se soucient du leadership du Hayat Tahrir al-Sham essaient de faire taire leurs opposants qui exposent sa vérité. Une source militaire proche du Hayat Tahrir al-Sham à Idlib a déclaré à Al-Monitor, sous couvert d'anonymat: Telegram est devenu un champ de bataille entre le Hayat Tahrir al-Sham et ses rivaux qui se cachent à Idlib. Ces chaînes sont suivies par des milliers de personnes et sont destinées à attaquer le Hayat Tahrir al-Sham, s'attardant sur ses erreurs et affirmant que ses membres sont corrompus et commettent des crimes. Les comptes Telegram des terroristes takfiristes surveillent attentivement la sécurité et les mouvements militaires du Hayat Tahrir al-Sham, avertissant les terroristes des endroits où les membres du Hayat Tahrir al-Sham sont déployés afin qu'ils évitent d'être arrêtés. Ils incitent également les habitants d'Idlib à se soulever contre cela, a ajouté la source. Ces djihadistes appellent à un coup d'État contre l'administration civile du Hayat Tahrir al-Sham, représentée par le gouvernement du salut à Idlib, et ils soutiennent généralement les protestations contre elle en rendant compte des événements, a déclaré la source. Mohamed al-Soukhari, chercheur sur les affaires syriennes, basé à Gaziantep, en Turquie, a déclaré à Al-Monitor: il ne fait aucun doute que le cyberespace est l'une des plateformes les plus importantes qui doivent être contrôlées. De nombreux groupes et personnalités anti-Hayat Tahrir al-Sham utilisent ces canaux pour mobiliser l'opinion publique contre cette organisation terroriste, profitant du mécontentement populaire face à sa politique arbitraire. En raison de la puissance du cyberespace, a-t-il déclaré, le Hayat Tahrir al-Sham estime qu'il est très important de contrôler ces plateformes et d'empêcher toute percée militaire dans sa structure, en particulier, comptons-nous des facteurs internes qui encouragent la polarisation au sein de ses rangs. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure, sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.